السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
Le cas de ceux qui dépensent leurs biens pour chercher le plaisir d'Allah et pour fortifier leur âme est pareil à celui d'un jardin situé sur un coteau. La pluie abondante tombe dessus, le faisant rapporter des fruits doublement, et si une grosse pluie ne l'arrose pas, alors une pluie fine suffit, et Allah voit très bien ce que vous faites. Aujourd'hui, tout Ahmadi dans le monde, tout Ahmadi qui a compris l'esprit de l'Ahmadiyya, a cette certitude que l'Ahmadiyya accepte comme dernier livre de loi le Saint-Coran. Le Saint-Coran qui a été révélé au Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui incombe de suivre chaque commandement du Saint-Coran. Et c'est en suivant chacun de ces commandements coraniques que l'on sera considéré comme un croyant véritable. Et dépenser pour la cause de Dieu fait partie de ces commandements importants de Dieu. Dans les tout premiers versets de la sourate Al-Baqarah, il a été dit que le Saint-Coran est une direction pour les muttaqis. Le Saint-Coran est une direction pour ces personnes qui croient dans l'invisible. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ des personnes qui établissent la prière وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé. Ces trois qualités sont importantes pour être considérées comme muttaqi. Ces trois qualités sont importantes pour profiter de la direction du Saint-Coran. Parmi ces commandements, il y a le fait de dépenser pour la cause de Dieu. Dans cette même sourate Al-Baqarah, jusqu'à la fin, l'on trouve mention dans plusieurs versets le thème du sacrifice financier. Ce sujet a été évoqué sous différents angles et dans différents versets. Et dans de nombreux autres versets du Saint-Coran, l'on trouve mention de ce thème du sacrifice financier. Un musulman Ahmadi comprend donc l'importance de ces sacrifices et lorsqu'il fait ces sacrifices, lorsqu'il suit ses commandements et lorsqu'en retour il est récipiendaire du traitement extraordinaire de Dieu, sa foi et sa certitude en ses sacrifices, sa foi et sa certitude en Dieu et en la véracité de l'islam, et sa certitude en la véracité du Messie premier l'Islam se renforce davantage. Dans ce verset que j'ai mentionné au tout début, on trouve mention de ces personnes qui dépensent pour la cause de Dieu. Ces personnes ne désirent pas faire étalage de leurs richesses. Ces personnes ne désirent pas faire étalage des faveurs qu'elles ont accordées. Ces personnes dépensent uniquement pour le plaisir de Dieu. Ces personnes dépensent pour la cause de Dieu afin de renforcer ceux qui sont faibles parmi elles, afin de renforcer aussi la communauté et afin de renforcer leur foi. Toute personne de bonne nature désire le plaisir de Dieu et désire aussi renforcer son âme et renforcer ses co-religionnaires. C'est ainsi qu'agissent les gens de bonne nature. Les gens de mauvaise nature n'ont pas de tels désirs. Les personnes qui agissent ainsi ne pensent pas uniquement à propos de leur propre personne. Ces personnes qui dépassent leur égocentrisme et qui désirent le plaisir de Dieu, ces personnes ne font pas ces dépenses afin de faire étalage de leur richesse. Ces personnes n'agissent pas ainsi afin de faire étalage des faveurs qu'elles ont accordées aux autres. Cela ne concerne pas uniquement des personnes riches, mais aussi des personnes pauvres. Les pauvres aussi désirent le plaisir de Dieu. Généralement, ce sont les pauvres qui désirent davantage le plaisir de Dieu que les riches. La plupart des communautés des prophètes sont composées de personnes pauvres au tout début. En dépit de cette pauvreté, ces personnes aident leurs frères et servent leur communauté selon leurs aptitudes et leurs capacités. Et ces personnes essaient de renforcer leur communauté. Nous voyons ces exemples à titre individuel parmi les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam après l'émigration à Médine. Les Ansar, les habitants de Médine, ont fait des sacrifices exemplaires afin de soutenir leurs frères émigrés venus de la Mecque. Et il y a eu des exemples individuels, mais il y a aussi eu des exemples collectifs. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une demande de fonds, ses compagnons ont donné ce qu'ils avaient de mieux. Ses compagnons ont offert pour la cause de Dieu la meilleure partie de leurs biens. Dans ce verset, Dieu a encouragé et les riches et les pauvres à dépenser en son chemin. Il est dit que si vous dépensez pour la cause de Dieu, si vous dépensez selon vos capacités, vous recevrez double récompense de ce que vous avez sacrifié. Ici, on a consolé les pauvres. Dieu leur fait comprendre qu'il récompensera certainement ces sacrifices qui ont été faits pour sa cause. Dans d'autres versets du Saint-Coran, Dieu a déclaré qu'il va multiplier ses récompenses par 700 fois ou plus. Ici, il n'est pas dit que seuls les grands sacrifices seront acceptés. L'important ici, c'est l'esprit du sacrifice. C'est l'esprit de ce sacrifice que Dieu accepte. En fait, Dieu accepte l'intention derrière chaque action. Dans certains cas, ce sont des sacrifices apparemment insignifiants qui sont plus honorés que des sacrifices beaucoup plus conséquents. Dans ce hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré qu'un dirham a aujourd'hui dépassé 100 000 dirhams. Ses compagnons lui ont demandé comment cela peut-il se faire. Le saint prophète a répondu qu'il y avait une personne qui possédait deux dirhams et qui a sacrifié un dirham. Il y avait une autre personne qui possédait de grandes richesses et de grandes propriétés. Cette personne a sacrifié 100 000 dirhams de ses richesses, une somme qui est insignifiante par rapport à toutes ses richesses, même si c'est une très grosse somme. Dieu juge les sacrifices selon les intentions et relativement aux capacités de chacun. Il n'est pas question ici de quantité. Dans ce verset, Dieu a consolé les pauvres en leur disant qu'une pluie fine suffit pour faire fructifier une terre fertile. Le peu de sacrifice que vous avez fait en toute sincérité et selon vos capacités sera accepté par Dieu. Ces sacrifices seront placés au même niveau que les grands sacrifices. Dans certains cas, Dieu accorde un plus grand statut à ces sacrifices qui sont apparemment insignifiants, tout comme nous l'avons vu dans l'exemple que j'ai cité. Dans ce même verset, Dieu déclare « Wallahu bima ta'maluna basir » « Allah voit très bien tout ce que vous faites ». Dieu nous fait comprendre ici qu'il connaît l'état des cœurs et qu'il connaît aussi vos sentiments. Il connaît l'esprit avec lequel vous consentez à ces sacrifices. Vous serez donc récompensé selon l'intention de vos cœurs. Dieu connaît vos capacités financières et toutes vos récompenses seront en accord à vos sacrifices.
Pour
Les sacrifices seront acceptés selon les intentions. À l'époque du Messie premier, l'Islam, il encourageait les membres de sa communauté à faire des sacrifices financiers et les riches et les pauvres contribuaient pour la cause de Dieu selon leurs capacités. La majorité de ses suivants étaient des pauvres et la somme qu'ils sacrifiaient était apparemment insignifiante. Mais cette pluie fine a rapporté autant de faveurs que les descendants de ces vénérables personnages sont aujourd'hui en train d'en consommer. Il incombe donc à ses descendants, de ses compagnons du Messie promis, parmi lesquels il y a aujourd'hui des personnes qui sont très riches, il incombe donc à ces personnes de transformer ces sacrifices en grosses pluies. Ils doivent faire de grands sacrifices afin que l'arbre de leurs actions et de ceux de leurs descendants soit toujours verdoyant. Le Messie promis, l'Islam, a aussi mentionné dans son livre même une personne qui a dépensé une roupie pour la cause de Dieu, un tout petit sacrifice. Il a cité en exemple une personne qui avait pris la décision qu'elle allait sacrifier une roupie tous les mois pour la cause de Dieu. Ses compagnons ont laissé des exemples de grands sacrifices. Il y avait un certain Georgi Abdulaziz qui était un comptable de village. Qazi Yusuf Saheb rapporte qu'un jour, alors qu'il était à Gurdaspur, le Messie promis a lancé un appel de fonds. Georgi Abdulaziz s'est présenté au Messie promis l'Islam et lui a offert la somme de 100 roupies. Il a tout simplement déclaré: voilà la somme que je possédais et je l'ai apportée et je vous le remets. Qazi Saheb, le rapporteur, déclare que je me suis étonné du sacrifice de ce comptable. Il n'était qu'un simple comptable et devait recevoir que 6 roupies par mois comme salaire. Et en toute sincérité, il a présenté cette grosse somme au Messie promis. Le rapporteur déclare aussi qu'en retour, Dieu lui a accordé d'innombrables grâces. Les compagnons du Messie premier, l'Islam, étaient tous imbus de taqwa. Ils avaient profité de la présence du Messie premier, l'Islam, et ont progressé dans le domaine de la taqwa. Georgi Saheb n'était pas comme les autres comptables. Dans notre pays, les comptables de village ont une mauvaise réputation. Ils reçoivent un salaire insignifiant, mais leurs revenus secondaires sont considérables. Ils collectent de l'argent par différents moyens, des grands et des petits propriétaires terriens. Et certains, lorsqu'ils prennent leur retraite, ils possèdent de grandes richesses. Ils possèdent plusieurs hectares de terre, ou même des centaines d'hectares de terre. Je me souviens qu'à l'école, il y avait avec moi dans la même classe l'enfant d'un comptable. Les vêtements qu'il portait n'étaient pas portés même par les enfants des riches. Lui-même disait que mon père reçoit que 45 roupies comme salaire. Mais Dieu nous a accordé d'innombrables grâces. La norme de la grâce divine a changé. Les moyens illicites se sont transformés en grâce divine. Et le revenu illicite, c'est le salaire de l'État. Le Messie promis, alayhi salam, nous a montré la grâce de Dieu. Alors que les gens disent que nous n'avons pas besoin de Messie, de Mahdi, de réformateur. Si on accepte le fait qu'on a besoin d'un réformateur et qu'on accepte ce réformateur, c'est là que l'on pourra reconnaître les faveurs de Dieu. Seuls les Ahmadis comprennent qu'ils doivent faire tout sacrifice pour la cause de Dieu et qu'en retour, ils recevront d'immenses grâces de la part de Dieu. Que ce soit une grosse pluie ou une petite pluie, que ce soit un grand ou un petit sacrifice, qu'ils soient riches ou pauvres, les sacrifices consentis pour la cause de Dieu vont tout le temps doubler en récompense. Le rapporteur a déclaré à propos de Chaudhry Abdulaziz que Dieu a fait fructifier sa sincérité. Il possédait peut-être aussi des terres. La plupart de ses comptables de village habitaient à la campagne. Et grâce à ces terres, il recevait peut-être des revenus. Il a donc pu économiser quelques sommes. Il a présenté tout cela au pied du Messie promis, alayhi salam. Que l'on se souvienne aussi que Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin que ses serviteurs lui offrent de leur champ. Lorsque Dieu demande des sacrifices de la part de ses serviteurs, c'est afin de les récompenser. C'est ainsi qu'agissent les prophètes de Dieu. Ils n'ont pas de soucis quant aux revenus de leur communauté. Quand Dieu envoie un prophète, il génère aussi les moyens pour le soutenir. Les prophètes font certainement ces demandes. Les califes aussi en font de même après. Mais Dieu, quant à lui, déclare que c'est lui qui va subvenir à leurs besoins. Cette promesse fut faite au Messie promis, alayhi salam. Il a évoqué cela. Il a déclaré que Dieu m'a promis qu'il va m'accorder ces sommes. Je lui ai demandé d'où va venir ce soutien financier. Il a déclaré, l'argent va venir certainement, mais il ne faut pas s'empêtrer dans le matérialisme en voyant toutes ces richesses. Il a déclaré qu'individuellement et collectivement, vous allez vivre dans l'aisance. Lorsque la communauté sera dans l'aisance financière, ceux qui seront responsables de ces dépenses vont devoir éviter toute dépense inutile. Ils vont devoir dépenser chaque sou avec maigre précaution. Qu'il s'agisse des sacrifices consentis par des pauvres ou par des riches, c'est une tâche importante que de dépenser à bon escient l'argent qui a été récolté. Afin que ces personnes qui sont en train de faire ces dépenses puissent avoir le plaisir de Dieu en dépensant cet argent à bon escient pour pouvoir servir les autres. Le Messie promis, alayhi salam, a insufflé en sa communauté un esprit de sacrifice. Par la grâce de Dieu, la communauté est en train de progresser dans ce domaine. Les nouveaux venus ont maintenu l'esprit de sacrifice des compagnons du Messie promis. Dans les endroits reculés, là où on a établi la communauté, les pauvres sont en train de faire des sacrifices financiers. Et une petite pluie fine est en train de faire fructifier leurs sacrifices. Nous voyons aussi des exemples de grosses pluies Il y a d'autres qui sont en train de dépenser généreusement. Et Dieu est en train de multiplier les récompenses qu'il leur accorde. Et leur business et leur commerce sont en train de prendre de l'ampleur. Je vais citer aujourd'hui quelques exemples. Par exemple, il y a le Nazim Waqfi de l'Inde qui déclare qu'en 2010, j'ai visité la région du Gujarat. Je suis passé par un village nommé Gandhidham et là-bas j'ai rencontré une personne qui devait payer 13 000 roupies pour le fonds Waqf-e Jadid. Je lui ai dit que je connais votre situation financière. Allah vous a accordé beaucoup de grâce. Promettez 50 000 roupies. Au même moment, cette personne lui a offert une chèque de 55 000 roupies. Il a déclaré que j'ai lancé un business, mais 2 100 000 roupies a été bloqué. Mais après cela, après quelques jours, cette somme qui a été bloquée a été débloquée et les gens sont venus lui rembourser cette somme. L'inspecteur du Waqf-e Jadid déclare qu'il y a un ami de la région du Tamil Nadu qui avait embrassé l'Ahmadiyya il y a une dizaine d'années. On lui a parlé à propos de l'importance du fonds Waqf-e Jadid et je lui ai demandé de promettre 30 000 roupies. Il a déclaré, « Maulvi Saheb, je vous ai entendu et moi je vais vous promettre 50 000 roupies. » Je lui ai dit que cela va dépasser vos moyens. Et l'autre a répondu que je vais présenter cela pour la cause de Dieu. Je connais mes capacités. Et au cours du mois du Ramadan, il a complété ses promesses et il a déclaré que par la grâce de Dieu, il reçoit un très bon revenu et il a promis 100 000 roupies pour Waqf-e Jadid et pour le fonds du Tahrik-e Jadid. Cheikh Mohammad Daoud du Bengale déclare qu'il y a un nouveau Ahmadi qui était en train d'enseigner dans une madrasa et qui a suivi la formation d'un mollim et qui contribuait 50 roupies comme chanda. Maintenant, il est en train de contribuer 5000 roupies. Celui-ci a déclaré que lorsque j'étais un non-Ahmadi, je mangeais à la table des autres après avoir prêté allégeance. Grâce aux bénédictions du chanda de ses contributions, maintenant ce sont les autres qui viennent manger à ma table et ils possèdent aussi des terres maintenant. La majorité des Ahmadis de la région de Kambepur sont des nouveaux venus. La plupart d'entre eux ont brassé l'Ahmadiyya il y a 10 ou 15 ans de cela. Par la grâce de Dieu, 50% de ces Ahmadis qui ont des revenus sont des moussis. Quelques temps auparavant ou quelques années de cela, il y a une personne qui a embrassé l'Ahmadiyya et cette personne a progressé dans ce domaine des sacrifices financiers. Il a déclaré que mon business a pris de l'ampleur et mes proches et mes parents non-Ahmadis sont tout étonnés et se demandent d'où vient cet argent. Je lui dis que tout cela est la grâce de Dieu et les bénédictions de l'Ahmadiyya. C'était donc des exemples de l'Inde. En Afrique aussi, dans des régions reculées, les Ahmadis sont imbus de sincérité. L'amir de la Gambie commente qu'il y a un Ahmadi qui s'appelle Fodeba Kole qui ne possède pas grand-chose, lorsqu'on lui a encouragé de participer dans le fonds Waqf-e Jadid, il a fait savoir qu'il est en train de passer par une période de famine. Mais après quelques jours, il est venu et il a donné 50 dilassis. Il a dit que je veux participer car je ne veux pas me priver de cette bénédiction. Il faisait face à de la famine, mais il a présenté cette somme pour ne pas se priver de ses bénédictions. Il y a une autre personne qui a dit que je ne possède pas grand-chose, mais cette personne a présenté la somme de 100 dilassis. L'amir de la Jamaat du Bénin a informé qu'il y a un secrétaire d'une toute nouvelle Jamaat de Afrakame, M. Latifou Hamidi, qui était un chômeur et qui était même parti jusqu'au Nigeria pour trouver du travail, mais il n'a rien trouvé là-bas. Nous étions en novembre, en décembre, 2 mois avant la fin du plan Waqf-e Jadid. On lui a dit de payer la somme qu'il avait promis et on lui a dit que si vous êtes en difficulté, que vous dépensez pour la cause de Dieu, vous serez récipiendaire de d'innombrables grâces. Il a déclaré que puisque nous sommes en train de vivre sur des emprunts, pourquoi ne pas emprunter de l'argent pour contribuer pour la cause de Dieu. Il se peut que Dieu change notre état. Et 3 jours après avoir contribué cette somme, il a trouvé du travail dans une très bonne maison et il a reçu un très bon salaire. Et après 2 mois, il a pu rembourser ses dettes. Il a acheté une moto et il a déclaré que tout cela résulte des bénédictions de mes contributions. Un mouallim de la région de Afrakame a déclaré que lorsqu'il est parti dans cette région, beaucoup de personnes devaient de l'argent au président de la Jamaat de Afrakame. C'était une très grosse somme que les personnes devaient au président de la Jamaat. Et ainsi, le président et les membres de sa famille n'avaient pas pu compléter leurs promesses. Le Mualim leur a fait comprendre en leur disant qu'une promesse est une dette. Si vous êtes en train de repousser le paiement de la dette de Dieu, les gens ne vont pas vous rembourser votre argent. Ces gens ont compris cela et immédiatement, ils ont tous compléter leurs promesses et le président a déclaré que voilà, j'ai remboursé à Dieu ce que je lui devais. Et après une semaine, toutes ces personnes qui leur devaient de l'argent sont venues et ont remboursé les sommes qu'il leur devait. Il a acheté un terrain et il a offert la moitié de ce terrain à la Jamaat pour bâtir une mosquée. Le missionnaire du Nigeria écrit qu'il y a une dame, Aswat Habib, qui a dit qu'elle avait un magasin de vêtements, mais que son mari a ouvert une école et que tout son temps se passe à l'école et le magasin reste fermé. Et un jour, le missionnaire est venu m'encourager à contribuer dans le fonds Waqf-e Jadid. J'ai donné ce que je pouvais. Et quelques heures après, lorsque j'ai ouvert mon magasin, j'ai fait plus de ventes en quelques heures que je ne faisais en des semaines. Tout cela résulte des bénédictions de ces contributions pour la cause de Dieu. Le missionnaire de la région de Dédougou déclare qu'il y a un frère Ahmadi qui s'appelle Djalo Sekou, qui avait embrassé l'Ahmadi il y a quelques années de cela et qui a participé dans les sacrifices financiers. Dieu a béni cette personne que l'année qu'il a commencé à contribuer pour la cause de Dieu, ses récoltes ont doublé et cette année-ci, il a contribué en espèces dans le fonds du Waqfe Jadid. L'amir du Burkina Faso déclare que un jour, le président de la Jamaat du Gava n'avait que 3000 francs dans sa poche. Sa femme lui a dit que nous n'avons rien à manger, apporte quelque chose du marché. Lorsqu'il est passé par la mission, le missionnaire lui a fait des rappels à propos de ses promesses. Le président s'est dit que voilà, c'est une épreuve pour moi. Et immédiatement, il a offert au président ses 3000 francs. Dieu a accepté son sacrifice et le même jour, une personne s'est présentée et lui a offert une avance de 300 000 francs pour un travail quelconque et lui a dit qu'il va payer le reste après qu'il ait terminé ce travail. Le président de la Jamaat a déclaré que dès ce jour, ma confiance en Dieu a grandi et toutes mes difficultés financières ont complètement disparu. Le missionnaire de Banfora déclare qu'il y a un ami Ahmadi qui s'appelle Sawa Dogo, qui a embrassé l'Ahmadiyya il y a 4 ans de cela et qui a commencé à contribuer dans les fonds de la communauté. Il a déclaré que je vais participer dans ces fonds car il y a beaucoup de bénédictions dans ses contributions. Avant d'avoir embrassé l'Ahmadiyya, avant de contribuer pour la cause de Dieu, j'empruntais de l'argent à droite et à gauche. Mais maintenant, Dieu a changé mon état. Et grâce à ses contributions, maintenant, je peux prêter de l'argent aux autres. Auparavant, mes créanciers frappaient à ma porte. Et maintenant, grâce aux bénédictions de l'imam Mahdi, ce sont des autres personnes qui viennent me demander de l'aide. Le Niger est un pays pauvre. Les gens de là-bas ont l'habitude de prendre et de ne pas donner, mais par la grâce de Dieu, là où on est en train de prêcher l'Ahmadiyya, on informe les nouveaux venus concernant ces sacrifices financiers et les gens se tournent davantage vers ces sacrifices. Dans plusieurs villages où on a prêché pour la première fois, les gens contribuent quelque chose dès le premier jour. Le missionnaire a déclaré que par la grâce de Dieu, cette année-ci, 100% des membres de la Jamaat du Niger participent dans le plan Waqfe Jadid. L'année dernière, il y avait 1478 contributeurs et cette année-ci, il y a 17706 contributeurs, c'est-à-dire il y a 16228 nouveaux contributeurs dans le fonds Waqfe Jadid. Par la grâce de Dieu, en Afrique aussi, il y a d'autres qui sont en train de dépasser les autres dans ce domaine. Par exemple, il y a un certain Al-Hadi Ibrahim Al-Hassan qui a bâti à Lagos une mosquée et un bâtiment où il y a 3 appartements. Il voulait offrir cette mosquée à la Jamaat. Un jour, avant d'aménager dans sa nouvelle maison, il a vu en rêve le premier calife qui a visité sa nouvelle maison, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième calife sont tous venus visiter sa maison et en fin de compte, le Messie promis lui-même est venu. Le Messie promis lui a dit que c'est notre visite qui est l'ouverture de cette maison. Après cela, il n'y aura pas d'autre cérémonie d'ouverture. Après cela, le Messie promis a visité ce bâtiment et il lui a dit que offrez ce bâtiment à la Jamaat. Lorsqu'il a ouvert ses yeux, il a déclaré qu'il va offrir un appartement à la communauté. Ainsi donc, il a offert cette mosquée et ses appartements à la communauté et tous ces bâtiments ont coûté 90 000 livres sterling. Le missionnaire du Togo écrit qu'il y a un village où on a nouvellement implanté la communauté Ahmadiyya. Les adversaires de la communauté apportaient beaucoup d'argent pour pervertir les gens et pour les détourner de l'Ahmadiyya. La plupart des habitants de ce village sont pauvres. Les adversaires de l'Ahmadiyya leur ont dit que nous avons apporté de l'argent alors que les Ahmadis vous demandent de l'argent. Et on va utiliser cet argent pour un commerce. Les villageois leur ont dit que vous êtes en train de mentir. Vous voulez nous détourner de notre foi. Les Ahmadis nous demandent de l'argent afin de renforcer notre foi. Et ensuite, ils nous présentent les enseignements du Saint-Coran, à savoir que tout musulman doit dépenser quelque chose pour la cause de Dieu. Et nous savons très bien que les Ahmadis servent la communauté et servent l'islam grâce à cet argent. Nous sommes très pauvres, certes. Votre argent pourra suffire à nos besoins, mais nous allons contribuer le peu que nous avons pour la cause de Dieu. Et ainsi, ces personnes participent dans les fonds financiers de la communauté. Voilà donc ces personnes qui sont prêtes à faire tout sacrifice pour la cause de Dieu. Nous voyons de grands et de petits sacrifices. Et Allah, selon ses promesses, est en train de doubler les récompenses qu'il leur accorde. Nous voyons cet esprit de sacrifice dans la Jamaat et les nouveaux venus aussi sont en train de progresser dans ce domaine. Le plan du Waqf-e Jadid, ce fonds se limitait aux Ahmadis du Pakistan auparavant, c'est-à-dire seuls les Ahmadis pakistanais participaient dans ce fonds et au cours du 4e califat on a demander aux Ahmadis du monde entier de contribuer dans ce fonds. Les gens ici en Occident contribuent dans ces fonds afin de subvenir aux besoins des Ahmadis de l'Inde et de l'Afrique. Car leurs besoins sont en train de grandir. La majorité de ces jamaats sont toutes nouvelles. Et la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'importance des sacrifices financiers. On doit donc subvenir à leurs besoins. On a à construire des mosquées et des bâtiments. Mais avec ce que je viens de mentionner à l'instant, nous constatons que même les nouveaux venus sont en train de participer dans ces sacrifices financiers. Et jusqu'à un certain point, ils sont en train de subvenir à leurs besoins localement. Mais et on doit aussi ouvrir de nouvelles missions. C'est pour cette raison que grâce au sacrifice des Ahmadis de l'Occident, on est en train de subvenir aux besoins des autres pays. On doit construire des mosquées, on doit publier des livres. Les sacrifices des Ahmadis de l'Occident est en train de subvenir aux besoins des Ahmadis de leur pays d'origine. Grâce à cela, on est en train d'élargir les projets et on utilise aussi cet argent pour aider les Ahmadis des pays pauvres. Ainsi, les sacrifices des individus et les sacrifices des jamaats sont en train d'apporter des résultats à l'instar des grosses pluies. Qu'Allah accepte ces sacrifices. Nous savons tous que le 1er janvier débute la nouvelle année du plan Waqf-e Jadid. J'ai cité des exemples qui concerne le plan Mokfetedid, et vous avez compris que je vais annoncer la nouvelle année et je vais présenter quelques chiffres concernant l'année écoulée. Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de traverser la 53e année du Waqfe Jadid. Cette 53e année est arrivée à sa fin le 31 décembre 2010 et la communauté a pu contribuer 4 183 000 livres sterling. Il y a eu une augmentation de 664 500 livres sterling de plus comparé à l'année dernière. Et en tête de liste, il y a le Pakistan, ensuite il y a les États-Unis d'Amérique, ensuite il y a le Royaume-Uni, ensuite l'Allemagne. Par la grâce de Dieu, le Royaume-Uni a contribué 100 000 livres sterling de plus comparé à l'année dernière, et l'Allemagne a fait des efforts pour dépasser le Royaume-Uni. Il y a eu une augmentation de 200 000 euros comparé à l'année dernière, mais elle s'est maintenue à sa position. Ensuite, il y a le Canada, l'Inde, l'Australie qui a monté d'une position. Ensuite, l'Indonésie, la Belgique et la Suisse. La liste des pays dont les contributions ont augmenté dans leur monnaie locale sont l'Allemagne avec 33% d'augmentation, ensuite l'Inde avec 26%, ensuite les États-Unis d'Amérique, l'Australie et la Belgique. La liste concernant les contributions par tête, il y a les États-Unis avec 80 livres par personne, ensuite la Suisse avec 48 livres par personne, ensuite l'Irlande, le Royaume-Uni, le Japon, et ensuite la France, le Canada et l'Espagne qui ont fait des efforts conséquents. Les cinq premiers pays de l'Afrique sont le Ghana, le Nigeria, l'île Maurice, Burkina Faso et le Bénin. Cette année-ci, il y a eu 25 000 nouveaux contributeurs. Donc, il y a 600 000 contributeurs. Mais comme je l'ai dit, le Niger a fait un effort conséquent. C'est une toute petite jamaat et une nouvelle jamaat. Il y a au Niger 16 000 contributeurs de plus. Si les autres jamaats de l'Afrique font des efforts, cela va augmenter davantage. Le Ghana et le Nigeria doivent faire des efforts et doivent augmenter leur nombre de contributeurs par 50%. Et ils peuvent faire ces efforts par la grâce de Dieu. La liste des jamaats du Pakistan dans les contributions des adultes est ainsi. Il y a en premier Lahore, ensuite Karachi et ensuite Rabwa. Il y a une petite différence entre Rabwa et Karachi, et Rabwa aurait pu prendre la deuxième position. Ensuite, il y a la liste des 10 premières provinces du Pakistan concernant les contributions des adultes. Il y a Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Islamabad, Sherpura. Pour les contributions des Atfal, il y a Lahore, Karachi et Rabwa concernant les Jamaat. Ensuite, parmi les 10 premiers Jamaat concernant les contributions des Atfal, il y a Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Sherpura, Faisalabad, Gujranwala, Narwal, Gujarat, Umarkot et Hyderabad. Les premières jamaats des États-Unis d'Amérique sont Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Détroit, Chicago West et Boston. Les 10 premiers jamaats du Royaume-Uni sont Worcester Park, Masjid Faisal, Rains Park, Birmingham West, Hewest Hill, Bradford, Bexley and Greenwich, Cheam, Masjid West, Wolverhampton. Et les régions sont Midland Region, South Region, London Region, Middlesex Region, Islamabad Region. Ensuite, il y a les cinq premières jamaat de l'Allemagne. Il y a Hambourg, Francfort, Grisgrau, Wiesbaden et Darmstadt. Il y a ensuite la liste des jamaat qui ont fait des efforts conséquents. Ce sont des noms en langue allemande, parmi lesquels il y a Rosham, Mehdiabad, Bremen et d'autres régions. Au Canada, ils ont maintenu des listes séparées pour les adultes et les enfants. Dans les autres jamaat, ils devaient en faire de même, tout comme je l'ai dit auparavant. Mais l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas maintenu des listes séparées pour les adultes et les enfants. Ainsi donc, c'est le Canada qui est en train de maintenir ses comptes séparés. Parmi les trois premières jamaat, par rapport aux contributions des adultes, il y a Markham, Peace Village South, Weston Islington, Calgary South. Ensuite, il y a la liste concernant les contributions des Atfal, parmi lesquelles il y a West South et d'autres jamaat. Ensuite, les provinces de l'Inde, en tête de liste, il y a Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Uttar Pradesh et West Bengal. Concernant les jamaat, en tête de liste, il y a Calicut, Kenanur Town, Hyderabad, Qadian, Chennai, Calcutta, Kerala, Bangalore, Pingari, Kambipur et Asnur. Qu'Allah accorde davantage de capacité aux Ahmadis qui ont contribué au cours de l'année dernière, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes, et qu'Allah leur accorde davantage de capacité à faire ces sacrifices, et que nous puissions voir le progrès de la Jamaat à l'avenir, Inch'Allah. J'ai une triste nouvelle à annoncer aujourd'hui. Il y a Mokaram Hadayatullah Hubsh Sahib de l'Allemagne qui est décédé le 4 janvier 2011. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il est né en 1946. Il avait environ 65 ans. Il a étudié à Francfort en 1974. Il s'est marié avec une dame de l'île Maurice. Son épouse est décédée après. Il a eu une fille de cette dame et ensuite il s'est remarié en 1980 avec une dame du Qadian. De ce mariage, il a eu 3 fils et 4 filles. Monsieur Hidayatullah Hubsh était un Ahmadi sincère. Il a mentionné comment est-ce qu'il a embrassé l'islam. Il a déclaré qu'il était à la maison, c'est lui, dans la maison de sa mère, lorsqu'une lumière a traversé au-dessus de son épaule et tombée sur une bibliothèque où il y avait des centaines de livres. Cette lumière est tombée sur un livre. Lorsqu'il a ouvert ce livre, c'était la traduction en langue allemande du Saint-Coran. Il a commencé à lire le Saint-Coran et il a eu la certitude que c'était Dieu qui était en train de lui parler par l'entremise de cet ouvrage et qu'il devait embrasser ou accepter cet ouvrage. En fait, il a embrassé et accepté l'islam. Après cela, il a cherché l'adresse d'une mosquée et il est tombé sur l'adresse de la mosquée Nour. Là-bas, il est entré en contact avec le missionnaire, M. Massoud Jelmi Saheb. Celui-ci lui a fait connaître l'islam et l'Ahmadiyya. En 1969, il a embrassé l'Ahmadiyya. Le troisième calife lui a donné le nom de Hidayatullah. En 1970, le troisième calife a visité Francfort et là-bas, il a pu rencontrer le troisième calife. L'amir de l'Allemagne, lui aussi, a embrassé l'Ahmadiyya par son entremise. Ils se sont rencontrés à Qadian. Et ainsi, M. Hidayatullah Hubsh a fait visiter Qadian à M. l'amir de la Jamaat de l'Allemagne. M. Hidayatullah Rubsh a tout le temps servi comme interprète du calife lors de ses visites en Allemagne. C'était une personne très simple et très pieuse, une personne qui avait une confiance indéfectible en Dieu. Il est venu après, mais sa confiance et sa foi et sa certitude en Dieu et sa fidélité et sa sincérité dépassent de loin les qualités des autres. Il avait un très grand amour pour le calife. Il ne désirait jamais se mettre en contradiction avec les autres. Si il y avait une émission du calife qui passait à la MTA, il demandait à ses enfants d'écouter ce sermon ou cette émission silencieusement. Il était très sérieux dans ses prières. Il était régulier dans ses prières de tahajjud et dans ses prières nawafil. Je me souviens que l'année dernière, lors de ma visite en Allemagne, j'ai appelé une session du Shura pour une journée. Et il y avait la question d'un magazine qu'on avait publié en langue allemande, un magazine publié par la Jamaat. Et certaines personnes avaient des impressions concernant certains articles de ce magazine. On a parlé à ce sujet et je compris que ces appréhensions étaient légitimes. M. Hidayatullah Rubsh a joué un grand rôle dans la publication de ce magazine. Ses filles aussi ont écrit des articles à ce sujet. Les autres ont essayé de justifier la publication de ce magazine et de justifier ces articles. Mais M. Hidayatullah s'est levé et il a tout simplement dit que ces erreurs sont présentes et je demande pardon pour cela. Et vaut mieux réfléchir davantage à ce sujet. Il n'a pas essayé de se justifier ou n'a pas essayé de présenter son point de vue. Il a tout simplement accepté ses erreurs et il a tout simplement demandé pardon. Voilà donc ses sentiments. Il m'avait invité chez lui pour l'Aïd. Il m'a fait visiter chaque chambre de sa maison, sa bibliothèque. Ils étaient tous en joie, mais sa joie était sans pareil. Sa joie le différenciait des autres. Il a eu l'occasion de servir la foi par la grâce de Dieu. Il a écrit plusieurs livres à propos de l'islam. Il avait un lien très ferme avec les médias. Il avait participé dans plusieurs sessions de questions et de réponses dans des émissions. Il était le porte-parole de la communauté en Allemagne. C'était un intellectuel. Et je dois dire qu'il possédait toutes les qualités d'un croyant véritable. Il était considéré comme un membre à part entière de l'équipe MTA. Il était considéré comme la vie même des émissions de la MTA en Allemagne. Il a laissé un très grand trésor de littérature pour la Jamaat de l'Allemagne. Il a présenté le point de vue de l'islam et de l'Ahmadiyya dans plusieurs émissions et dans plusieurs articles. Il maîtrisait aussi la langue anglaise. Il a écrit plusieurs poèmes en allemand et en langue anglaise. Il enseignait la langue allemande à la Jamia. Et il faisait beaucoup d'efforts à ce sujet. C'était un très bon poète. Il a publié plusieurs de ses poèmes. Il a aussi présenté plusieurs discours. Il avait un très grand amour pour le Saint-Coran. Il avait une confiance totale en Dieu. Lorsqu'il faisait face à des difficultés, il disait tout simplement qu'on doit prier. Il était régulier dans ses prières quotidiennes, il était régulier dans les prières de Tahajjud. Il faisait aussi de grands sacrifices financiers. Sa fille m'a fait savoir que lorsqu'elle était en difficulté, son père lui disait que écrivez au calife, priez vous aussi. Voilà la seule solution. Il a fait publier plusieurs ouvrages à l'extérieur, parmi lesquels il y a deux éditions sur les enseignements du Saint-Coran et il y a aussi 99 questions sur l'islam. Ensuite, il y a 55 questions concernant le statut de la femme en islam. Ensuite, il y a le concept du paradis de l'enfer en islam. Il a fait publier 12 ouvrages à l'extérieur sur plusieurs sujets. Ensuite, au sein de la Jamaat, il a fait publier environ 4 livres. Il a écrit un ouvrage sur Qadian et sur le comportement de la femme en islam. Et il avait publié plusieurs articles. Il a écrit plus de 120 brochures ou dépliant à propos de l'islam. Il a participé dans plusieurs talk shows. Il a participé dans une émission d'un juif très connu en Allemagne qui a parlé à propos du danger de l'islam. Et il a défendu l'islam. Et il a aussi participé dans une autre émission dont le thème était l'islam et l'extrémisme. Il a aussi participé dans d'innombrables émissions télévisées. Il était en contact avec plusieurs intellectuels, avec des journalistes, avec des politiciens. Il était en contact avec les grands quotidiens de l'Allemagne. Les grands quotidiens ont publié plusieurs de ses articles. 16 grands journaux de l'Allemagne ont publié des articles à propos de son décès, parmi lesquels il y a des grands quotidiens. On a présenté M. Rupsch comme le musulman converti le plus connu. Le ministre d'une région a déclaré qu'il était le converti le plus connu. Le Frankfurt New Press a déclaré qu'il était un poète et un mobaligh. Un lauréat du prix Nobel a déclaré qu'il était parmi les plus grands écrivains après les années 60. Dans son dernier poème, il a remercié le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car c'est grâce à lui qu'il a reçu cette foi et qu'il a pu marcher sur la Sirat Mustaqim. Qu'Allah exalte son statut. Comme je l'ai dit, il a laissé son épouse et 8 enfants. Qu'Allah soit leur protecteur. Qu'Allah fasse que ses enfants puissent suivre sa voie. Certains de ses enfants sont en train de servir la communauté. Que ses enfants soient aussi fidèles envers la Jamaat et envers le califat. Je demande aux jeunes Ahmadis de l'Allemagne que ce monsieur s'est acquitté de son devoir de musulman Ahmadi, essayez de suivre sa voie et défendez l'islam en Europe et en Allemagne. maîtriser la langue de là-bas et présenter ses enseignements de l'islam et défendre l'islam et prouver la supériorité de l'islam en présentant ses qualités. Je dois aussi présenter un éclaircissement. Monsieur Hidayatullah était, comme je l'ai dit, une personne qui possédait de grandes qualités. Mais dans certains cas, certaines personnes présentent le statut d'une personnalité sous un tel angle que d'aucuns se posent des questions. Certains ont déclaré que le lundi, il y a eu une éclipse du soleil. Peut-être qu'il avait rendu l'âme au moment de l'éclipse. Et certains se sont demandé s'il y avait des relations entre cette éclipse et son décès. Sachez que l'islam interdit de telles suppositions. Dans ce hadith, Hadrat Mourira bin Shorba déclare que le fils du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est décédé un jour de l'éclipse. Beaucoup de personnes ont dit que le soleil s'est éclipsé en raison du décès du fils du saint prophète. Le saint prophète a tout simplement déclaré que le soleil et la lune ne s'éclipsent pas en raison du décès de quelqu'un. Si vous voyez une éclipse, priez et implorez Dieu. Voilà comment agir. Si l'on voit une éclipse, c'est ainsi que l'on doit agir. C'est-à-dire, on doit accomplir la prière khusuf et kusuf. Ce même jour, il y a eu certainement beaucoup de personnes qui sont décédées et d'autres qui sont nées. D'aucuns pourront dire que le soleil s'est éclipsé en raison du décès de notre proche. Ou que le soleil s'est éclipsé en raison de la naissance de telle ou telle personne. Cela va donner naissance à des innovations pernicieuses et les Ahmadis doivent éviter de telles suppositions et doivent agir selon le commandement de Dieu et de son prophète. À part cela, je veux vous demander de prier pour un Ahmadi de la région de Mardan. Les adversaires de l'Ahmadiyya ont tiré sur certains des Ahmadis et un jeune Ahmadi, Mia Nurman Ahmad, qui est le fils de Mia Bashir Ahmad, qui a 25 ans, a été touché par balle. Il est blessé et il est à l'hôpital. Qu'Allah lui accorde une bonne santé et qu'Allah attrape aussi les ennemis de l'Ahmadiyya.